Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous!
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Si tu écoutes ce podcast, sache que tu peux aussi le regarder sur YouTube. Et si tu regardes cette émission, tu peux aussi l'écouter sur ton application de podcast ou musique préférée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Coucou les cocos! Comme je l'annonçais précédemment, les histoires immersives sont désormais réservées aux membres du Club Coco. Devenir membre, c'est accéder au contenu exclusif, discuter et parler de sexualité tous ensemble avec la communauté, et me soutenir dans ma mission, qui est celle de faire évoluer la communication entre les partenaires, apprendre à connaître ses désirs et bien les communiquer pour toujours plus se divertir. En t'abonnant à ma newsletter, tu recevras par mail 2 épisodes gratuits d'Histoire immersive. Pour plus d'informations et devenir membre, tu peux cliquer sur le lien dans la description. À bientôt dans le Club Coco. Salut.
Salut.
C'est Colette. Et aujourd'hui, je suis avec Pamy.
Bonjour.
Bonjour Pamy, merci d'être là.
Je t'en prie.
Alors Pamy, en fait, on s'est rencontrés par le biais d'une amie à moi, d'une connaissance en commun, qui a participé à l'un de tes événements que tu as organisé pour elle.
Ouais.
Et en fait, je lui avais demandé si elle connaîtrait quelqu'un pour parler de ces événements-là et pour qu'on discute de tout ça. Donc les événements en fait en question, c'est les gangbangs.
Yeah.
Et toi, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Bah alors, je suis Pamy. Moi, je suis organisateur professionnel de gangbang, de bukkake, aussi un peu des orgies. Enfin, tout ce qui touche à une femme entourée de beaucoup d'hommes. Dans un contexte sexuel, évidemment. Ça fait 10 ans que je fais ça, c'est mon métier. Et je sais pas, j'ai dû en faire 700 à peu près. Enfin voilà, c'est quelque chose sur lequel. Et avant de ça, pendant quelques années, j'ai assisté à un autre organisateur. Donc peut-être dans ma vie, j'ai dû assister à un millier de pluralités masculines, comme on dit, pour englober les différents contextes où il y a une femme et plein d'hommes autour.
Quand tu dis assister, c'est-à-dire que tu as organisé ou que tu as participé?
Alors, tôt, au tout début, c'était comme participant, mais vraiment au tout début. Et puis, très rapidement, je suis devenu assistant de l'organisateur. Même parfois, je le remplaçais. Enfin, voilà, donc c'était plus que de l'assistance. Et puis, en 2012, j'étais un peu dans une impasse dans ma carrière professionnelle. Je trouvais pas, ça ne m'épanouissait pas. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule à l'occasion d'un intercontrat. Enfin, je me suis dit, essayons d'en faire ce que je faisais déjà, soit en le remplaçant, soit pour des amis, de trouver des castings, des lieux, des choses comme ça, des castings d'hommes, des groupes. J'ai dit, bon, allez, essayons d'en faire un peu avec, non pas des amis, mais aussi des commanditaires, des clients, des gens qui sont pas forcément des gens que je connais. Et donc, j'ai ouvert un site web, j'ai fait tourner le mot, et puis j'ai eu les premiers clients en septembre 2012. Et puis depuis, bon, à l'exception du Covid, je ne me suis jamais arrêté. Donc j'en fais, je sais pas, 80 par an, quelque chose comme ça.
Super.
Alors, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir un peu comment ça se passe de manière, avec ton point de vue à toi. Je trouve que c'est ça qui peut être vraiment touchant dans cet échange aujourd'hui. Mais avant de partir là-dedans, j'aimerais juste un peu éclaircir quelques points techniques, parce que, voilà, disons, pour tous novices qui découvrent, déjà, est-ce que ce sont des événements payants ?
Alors, moi, pour en faire mon métier, pour que ça soit professionnel, pour que je puisse en faire un certain nombre, oui, je suis payé. Essentiellement, c'est-à-dire dans 9 événements sur 10, uniquement par les hommes qui participent. Et puis, dans de rares fois, il y a les femmes ou les couples qui me commandent un événement, qui ont une participation à fournir, peut-être quelque chose que quelques dizaines d'euros, enfin quelque chose d'assez light, parce que leur désir ne correspond pas tout à fait au budget qui serait bouclable avec juste les participations masculines. Mais en gros, c'est essentiellement les hommes qui financent la tenue de l'événement, et c'est les femmes qui, par contre, le commanditent.
Voilà. D'accord. Le commandite, ça veut dire qu'elles prennent contact avec toi et elles te disent ce qu'elles aimeraient ?
Alors, souvent, ça passe par leur partenaire, complice, conjoint. C'est rarement elles toutes seules.
Ah oui.
C'est rarement elles en premier, en tout cas. Souvent, il y a déjà une première prise de contact via un tiers, qui est soit quelqu'un que je connais déjà, parce que souvent, par exemple, des hommes qui ont assisté à des événements en homme seul reviennent accompagnés, où on parle de ce que je font, de ce que je fais à leur compagne. Et puis du coup, souvent, c'est vrai que les premiers échanges, au moins, et puis sont avec le conjoint, enfin le complice.
Tu sais pourquoi ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, même si ce sont des femmes qui sont souvent très libérées, il y a quand même une pudeur. Alors, peut-être pas une pudeur de dire je vais faire une pluralité, mais de rentrer dans les détails, c'est-à-dire de vraiment dire voilà ce qui me plaît, voilà ce que je veux. C'est peut-être même parfois plus dur à dire qu'à faire.
Mmh.
Et donc, du coup, souvent, à travers un complice, un compagnon, peu importe, à vrai dire, des fois, c'est pas forcément des gens qui sont en couple, hein. C'est juste un copain de baisse, mais plutôt régulier, quelqu'un qui la connaît bien. Ou quelqu'un qu'elle connaît pour avoir déjà fait d'autres types de jeux, je sais pas, des gens qui font du shibari ou qui l'ont déjà encordé par exemple, ou des gens qui font du fouet, ou des choses comme ça, qui me présentent. Et puis après, effectivement, selon le souhait, le désir, le fonctionnement du couple s'ils sont en couple, ou du duo si c'est pas des gens qui sont en couple, j'ai plus ou moins longuement la femme. Alors il y a des couples qui, pour lequel avoir la femme, c'est juste 15 secondes de quasiment note vocale WhatsApp où elle me dit je suis bien machine, j'autorise bien mon conjoint machin à organiser pour moi, je veux pas connaître les détails. Ça a un attrait, ça, pour certaines, de pas être forcément dans le côté organisation. Puis il y en a d'autres qui gèrent vraiment leur événement toute seule, du début à la fin, il n'y a même pas eu besoin. Sur beaucoup d'événements, forcément, j'ai rencontré beaucoup de façons de faire différentes, mais en tout cas, c'est vrai que c'est rare que des femmes complètement seules viennent vers moi, et c'est rare qu'elles gèrent tout du début à la fin. Il y a souvent quand même une mise en relation par un tiers, ou un conjoint qui sert peut-être de première interface, de première, pour vérifier qu'il tombe dans des endroits à peu près sérieux. Voilà, avant de éventuellement passer le relais à la principale intéressée.
Et la note vocale, par contre, c'est une obligation. Le minimum que tu demandes,
voilà,
à la femme,
minimum, c'est de la voir au téléphone.
C'est qu'elle donne un consentement
une
vocal.
Une minute, une note vocale, éventuellement, je sais pas, un papier sur le lieu devant lequel elle se prend en photo, enfin, quelque chose qui vérifie qu'elle est vraiment consentante. Après, les modalités, ça peut varier selon. Ça peut être un appel aux vidéos, enfin, peu importe, à vrai dire, c'est pas très. Je sais pas. Ce qui compte, c'est d'être sûr qu'elle soit consentante plus que consentante, en fait, enthousiaste à l'idée. Après, voilà, parce que moi, le consentement ne suffit peut-être pas, parce qu'il y a des façons de consentir qui sont des façons de consentement qui sont pas, que je ne veux pas avoir, c'est-à-dire des consentir pour faire plaisir au conjoint, c'est pas ça que je veux. Ça fait des mauvais événements pour tout le monde.
Au niveau de l'offre et la demande, tu dirais que ça fluctue comment en termes de... Est-ce que ça t'arrive d'avoir trop de femmes qui veulent et que du coup t'as du mal à trouver des hommes pour elles, ou
alors,
est-ce que c'est l'inverse ?
Moi, je connais mes capacités d'organisation. Donc, en général, je préfère refuser que de faire un événement dont je sais qu'il ne sera pas rempli ou pour lequel je vais avoir du mal à remplir.
Mmh. Et pas aux attentes de ce qu'elle t'a demandé.
C'est-à-dire, oui, voilà, exactement. C'est-à-dire, si c'est décevant, il vaut mieux pas le faire. Donc, parce que c'est pas anodin ce que je fais. C'est pas une partie de tennis ou une partie de cartes. C'est quelque chose de... Bon, même si certaines ont déjà beaucoup d'expérience, l'ont beaucoup déjà fait dans différents contextes, ça reste quand même pas anodin. Et une expérience décevante peut être très décevante, ou une expérience traumatisante peut être très traumatisante. Et donc, du coup, c'est important. Des gens parfois font de la route pour venir. Enfin, voilà. Je sais que c'est quelque chose que des gens qui sont dans des clubs ou dans d'autres types d'événements libertins professent. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais savoir à l'avance. Il y a toujours une part d'aléas. Quelque part, ce n'est pas entièrement faux. Il y a toujours une part d'aléas, bien sûr. Mais c'est souvent un moyen de se réfugier pour ne pas faire son travail d'organisateur et de mettre un peu ce qu'on a sous la main. Moi, je préfère dire non. Je dis régulièrement non. Je dis plutôt une autre semaine. Là, cette fois-ci, je vais avoir un calendrier chargé. Je ne suis pas sûr de pouvoir fournir. Est-ce que vous voulez le faire quand même? Voilà, je suis honnête avec les clients. Je ne cherche pas à maximiser forcément le nombre d'événements par semaine, quitte à en rater 1 sur 5 ou 1 sur... Enfin, voilà. Donc, et c'est souvent, par exemple, comment dire... J'ai une façon de faire, par exemple, je pourrais remplir plus, je pourrais trouver plus d'hommes, mais il faudrait que je fasse appel de manière plus massive à des gens que je ne connais pas. Et moi, alors évidemment, c'est pas une règle absolue, c'est une règle, on va dire, qui s'adapte au fur et à mesure avec en coordination avec le couple ou avec la femme qui me commande. Je prends essentiellement des gens que je connais, soit uniquement, soit en majorité.
Dans les hommes ou dans les femmes?
Dans les hommes. Parce qu'en fait, c'est ça mon métier, c'est de réunir des groupes d'hommes à la demande d'une femme. Donc ce sont majoritairement des hommes que je connais. Et puis, selon le type d'événement, selon la difficulté de l'événement, selon l'intérêt d'avoir des nouveaux ou pas, j'en rajoute. Mais j'en rajoute toujours une minorité. Et donc, évidemment, si j'ouvrais à tout va les vannes, peut-être que j'aurais toujours de quoi remplir. C'est quelque chose auquel je me refuse. Ça crée trop d'aléas, des choses que je peux pas contrôler. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez précautionneux. C'est un peu, certains disent même un peu anxieux, mais je préfère dire précautionneux. C'est en tout cas
consciencieux, j'aurais dit moi.
C'est dans le cadre de mon travail. C'est très important pour moi que les choses ne soient pas ratées. Mmh. Ça peut être un peu en dessous. Et dans ce cas-là, je le dis à l'avance. Par exemple, des gens qui ont des fantasmes très intenses, je leur dis, écoutez, on ne se connaît pas, faisons d'abord quelque chose de peut-être un peu en dessous en termes d'intensité, construisons de la confiance, faisons plusieurs événements, et puis, à terme, nous atteindrons peut-être ce que vous avez en tête exactement. Mais voilà, je préfère dire non, ou modérer, ou réduire, ou leur expliquer aussi pourquoi, ça, avec mon expérience, leur fantasme, une fois... S'il était réalisé tel quel, serait décevant. Mm. Parce qu'ils ne prennent pas forcément en compte la dynamique qu'il peut y avoir entre les hommes. Souvent, il y a des choses où ils ne prennent pas en compte comment les hommes prennent du plaisir et comment les hommes fonctionnent. Et ils considèrent dans un fantasme, c'est normal, on ne prend pas forcément. C'est son fantasme à soi, et donc on ne prend pas forcément en compte le désir des autres. Et donc, du coup, c'est à moi de, j'allais dire, défendre les intérêts des hommes. Défendre les conditions de possibilité qui feront qu'ils pourront eux aussi prendre leur plaisir et donc du coup aussi leur en donner à la femme, parce que il y a quand même un aspect fortement mécanique chez l'homme, hein, c'est-à-dire que s'il n'est pas excité, s'il n'a pas un cadre où il se sent bien, il ne va pas être performant, et donc du coup elle n'aura pas le fantasme qu'elle cherchait, et donc ça sert à rien de promettre plus que ce qui est faisable.
J'aimerais revenir sur le fait que tu disais justement que tu choisissais les hommes. Quels sont les filtres? Est-ce que toi, tu as des critères particuliers? Tu dis, ok, ça, c'est un no-go? Ou au contraire, il y a des choses parfois qui vont que la personne peut dire et si, ça va te tétiller. Enfin, tu vas dire, ah, ok, il a l'air d'avoir une personnalité intéressante, il a l'air sympa, ouvert.
Tu parles de la sélection que je fais auprès des hommes seuls, hein, c'est ça?
Oui.
Ok. En fait, ça dépend fortement aussi des attentes de la femme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont des attentes assez... le nombre est suffisant. Typiquement, par exemple, les plans bukake. Bukake, je ne sais pas comment il faut prononcer. Il n'y a pas grand-chose à attendre des hommes, à part qu'ils soient capables de jouer. C'est relativement... C'est des plans, on va dire, avec une pression assez faible sur les hommes, comparativement à un plan où l'homme, il doit être dominant, directif, prendre... voilà. Et donc, du coup, dans ces plans-là, effectivement, ce que... je prends plus de nouveaux que dans des plans où il faut être directif, parce qu'évidemment, directif, voire même dominateur. Alors là, dominateur, je prends jamais de nouveaux, hein. Je prends que des gens que je connais, parce que c'est pas qu'il y ait un risque important avec des inconnus, mais c'est que ça serait pas rendre service même à quelqu'un qui serait novice, qui découvrirait ça, de le caster dans un plan où il faut arriver et dominer une inconnue. Ça serait le mettre dans une situation d'échec, même pour lui. Et pour la femme, évidemment, pour la sécurité, pour le... mais en particulier pour lui. Alors par contre, dans un buquec, souvent... buquec, buquequé, je sais pas comment il faut dire. En tout cas, donc du coup...
appelons ça comme on veut.
Voilà, buquec.
ça marche.
Donc dans un buquec, alors peut-être j'ai besoin de vous dire ce que c'est.
Oui, expliquons. Oui.
Ouais, ça serait pas mal. Dans un buquec, l'idée c'est simplement que les hommes jouissent à la chaîne sur une femme.
Donc il n'y a pas de préliminaire, il n'y a rien avant.
Alors, justement, si, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, entre le fantasme et la réalité, il y a parfois du travail d'adaptation. Et donc, si dans la version japonaise traditionnelle, ancienne, il y a le bukkake est un pratique d'humiliation de la femme, en réalité, moi, ce que j'organise, c'est pas du tout ça. Et en fait, dans la version japonaise, c'est un pratique d'humiliation de la femme où elle est, entre guillemets, presque souvent attachée, et où les hommes la souillent, la salissent avec leurs semences. Ça, c'est en tout cas peut-être une légende urbaine, mais en tout cas, c'est la version comme on imagine, peut-être certains, comme certains peuvent l'imaginer. Moi, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est une femme qui va faire jouer un groupe d'hommes. Donc, c'est elle qui est souvent très aux commandes. C'est elle qui se tape le groupe d'hommes et pas le contraire. Et donc, quelque part, les hommes, ils ont peut-être un rôle moins actif dans ces cadres-là. Et donc, ils ont plus à se laisser porter.
Et si je comprends bien, est-ce qu'il y a de la friction?
Oui, bien sûr.
Ou est-ce qu'eux, ils regardent et,
Alors l'idée, c'est que du coup, comme c'est elle qui les fait jouer, il n'y a pas de pénétration. Ou il y a peut-être 10 minutes de pénétration pour créer un spectacle excitant avec, je ne sais pas, mettons qu'il y ait 20 participants. Elle en choisit, je ne sais pas, 3-4. Où elle fait un peu tout le monde les 10 minutes. Voilà, pour exciter tout le monde, pour créer un spectacle excitant, de la voir se faire pénétrer par des hommes. Et puis, derrière, le but, l'objectif du buquec, c'est d'être couverte, ou de recevoir des éjaculations, ou d'en avoir dans la bouche, ou de... À vrai dire, ça dépend des femmes, ça dépend un peu de la façon de faire. Mais l'idée, c'est souvent elles qui sont aux commandes de leur buquec. Et donc, du coup, pour les hommes, c'est relativement sans enjeu, enfin, basse pression en tout cas. Et donc... Ce sont des bons plans pour les nouveaux, ils peuvent venir, ils sont nombreux, donc si jamais ils ne se sentent pas à l'aise, ils font un pas de côté, un pas en arrière, et ils restent plus spectateurs qu'acteurs. Mais voilà, donc du coup, alors qu'évidemment, si je les caste pour une première fois, pour des nouveaux, dans un truc où ils sont 5, et où la nana veut se faire démonter, quelque chose de très très hard et tout ça, ben, s'ils sont pas en forme, ça va se voir, ils vont être mal à l'aise, ça va être mauvais pour tout le monde. Donc du coup, il y a une sorte de, comment dire, de parcours que je fais parcourir aux hommes, évidemment, en les commençant dans des plans, on va dire, simples, et puis au fur et à mesure, je les connais, ils peuvent accéder à des plans plus compliqués, mais aussi où ils sont un peu moins nombreux, voilà. Mais bon, de toute manière, c'est pas une science exacte, hein, c'est quand même plus un artisanat qu'une industrie. Et donc du coup, par exemple, pour en revenir au filtre que je mets pour les hommes, moi je passe 10 minutes, un quart d'heure avec chacun des hommes au téléphone avant qu'ils viennent pour la première fois.
D'accord, ok.
C'est sous prétexte de faire un briefing et de leur vérifier qu'ils savent bien où ils mettent les pieds, qu'ils connaissent bien le fonctionnement, tel qu'il est précisé sur mon site. Mais en vrai, ça me permet, en lisant entre les lignes, de voir à qui j'ai affaire, d'entendre les questions qu'ils posent, la manière dont ils les posent, le niveau de langage, ce genre de choses. Bah, je ne prétends pas n'avoir à faire que des agrégés de philosophie, mais j'ai quand même, en général, globalement, des gens qui savent se tenir, qui sont dans un bon état d'esprit, si ce n'est forcément quelque chose de raffiné, mais au moins quelque chose de festif, de... Voilà. La première chose que je dis aux hommes, quasiment, peut-être dans les deux premières phrases que je dis, c'est que les femmes ne sont pas payées, qu'elles sont là uniquement pour leur plaisir, et que donc, du coup, ce sont leurs plans à elles, c'est pas notre plan à nous, c'est pas mon plan à moi comme organisateur, et donc, du coup... Il faut s'y adapter. Si on veut un plan à soi, eh ben, on passe à voir moi.
Comment tu te positionnes pendant le rendez-vous? Est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu es à l'extérieur?
Alors, je suis toujours présent.
D'accord.
Moi, en 700 événements, j'ai dû en rater un où j'avais 42 fièvres et je me suis fait remplacer. Mais normalement, je suis toujours présent. Je me sentirais pas du tout à l'aise de déléguer. Toujours présent. Et après, mon niveau de participation dépend fortement de comment le couple ou la femme voit la chose. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'ont pas besoin du tout que j'intervienne parce que soit elles sont, entre guillemets, les gestionnaires de leur plan. Elles disent, toi, viens ici, toi, va là-bas, fais ci, fais ça. Enfin, c'est limite, elles sont dans la domination, presque.
Elles savent ce qu'elles veulent.
Ouais, non, mais des fois, même, c'est, je dois prévenir les mecs parce que c'est un peu castrateur. Parce qu'elles sont vraiment presque autoritaires. Donc ça, ou alors, je dois leur dire de mettre ça peut-être un petit peu en veilleuse ou de réduire un petit peu l'intensité de leur autorité. Voilà, tout est faisable. C'est juste qu'il faut que je prévienne les hommes. Ça va être comme ça. Et puis il y en a d'autres qui ont envie d'être perdus comme sur un grand tour de manège et qui ont envie de se laisser faire, d'être portés par l'événement. Et dans ce cas-là, il faut que quelqu'un dirige. Alors, ça peut être un conjoint, un maître, un compagnon. Ça peut être un des mecs avec lesquels il y a un feeling qui s'est créé presque spontanément. Mais grosso modo, je suis quand même là pour, si jamais ça ne se fait pas spontanément ou que il n'y a pas un mari ou un conjoint pour le faire, pour moi, diriger. C'est particulièrement vrai quand il y a beaucoup de monde, moi, sans aller jusqu'à dire que je fais la police, j'essaie de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, que les choses se passent de manière, équitable pour tout le monde. Et puis aussi, l'avantage d'avoir une majorité d'habitués, c'est que les habitués sont un peu mes relais au centre de l'action. Parce que, évidemment, avec la mêlée, avec la promiscuité, je peux pas tout voir, je prétends pas être capable de tout voir, et donc des gens qui viennent dans mes plans depuis le début, c'est-à-dire depuis septembre 2012, ils sont encore présents, et même je les connaissais d'avant, ça, je les connaissais avant que j'organise moi-même, donc ces gens-là, une relation de confiance s'est installée, et donc du coup, ils me servent pas d'assistant, parce que ça reste quand même des participants essentiellement, mais voilà, de relais, et donc je vais les voir, je leur demande, tu le sens comment? Est-ce que ça tourne bien? Est-ce qu'elle prend son pied? Parce que on peut pas, quand on n'est pas, on va dire, en action, on n'est pas forcément. Il y a des choses qu'on rate. Et puis même dans les rares cas, dans les quelques cas où j'ai fait des soirées, où il n'y a pas des petits groupes. C'est-à-dire, un petit groupe, pour moi, ça va jusqu'à 20 personnes. Dès qu'on fait des soirées où il y a vraiment du monde, 50, 100 personnes, où il n'y a pas une seule femme dans ce cas-là.
49 hommes et une femme.
C'est jamais ça.
Parce que là, je me dis, waouh.
C'est jamais ça. C'est peut-être, je ne sais pas, 10 femmes et 30 hommes, par exemple.
D'accord.
Voilà. Bon, là, je ne peux pas avoir les yeux partout, évidemment. Et donc, effectivement, avoir une bonne base, voire même quasiment que des hommes que je connais déjà, ça me permet d'éventuellement repérer les problèmes, remonter, et même, je sais qu'une fois, dans quelque chose que je co-organisais avec quelqu'un, donc je n'étais pas le seul, un de ces invités de la personne avec qui j'organisais, en fin de soirée, à 3h du matin, avait bu, et la femme aussi, et dans l'enthousiasme de la chose, ils n'ont pas mis de préservatif, et j'ai presque dû protéger le pauvre mec sous de la vindicte des hommes autour qui étaient prêts à le sortir de la soirée parce qu'il n'avait pas respecté le fait de mettre un préservatif. Donc c'est vraiment il y a une sorte de
compris, tu dis protéger parce que les autres s'étaient énervés contre lui.
Ouais, voilà, il l'engueulait, quoi. Il l'engueulait d'être
en même temps
il a raison, ouais. Il à juste titre. Néanmoins, bon, les deux étaient bourrés, c'est peut-être une excuse, ça s'est pas fait, il n'y a pas eu de pénétration,
c'est juste qu'ils allaient y aller.
Ils sont deux, est-ce qu'ils étaient vraiment consentants? Est-ce que c'était un consentement alcoolisé? Je pense, le mec, il avait fait toute la soirée avec préservatif, et cette fois-ci, il ne l'avait pas fait.
Oublié,
c'était. Voilà, je lui en ai. Peut-être pas voulu personnellement, mais en tout cas, je lui ai dit de ne plus boire dans les soirées. Je crois pas que je l'avoir revu d'ailleurs, mais parce que je pense qu'il avait un peu honte de lui-même. Mais du coup.
Après, c'est bien ce que tu dis, ce que tu démontres, le fait que les autres hommes. Parce que ça prouve qu'il y a un règlement à respecter et que peut-être qu'il a été engueulé un peu trop fortement, mais ça signifie que oui, les règles sont plus importantes que ton taux d'alcoolémie et c'est comme ça.
Oui, ouais, non, mais ça c'était. J'allais dire oui, c'est évident, mais à vrai dire, rien n'est évident, il faut mieux tout le dire. Mais surtout, l'idée c'est que on s'imagine parfois qu'un gangbang, c'est un groupe d'hommes qui vont prendre le dessus sur une femme. Et peut-être que ça peut être le cas quand c'est un groupe d'hommes où tous les hommes se connaissent et sont, entre guillemets, amis entre eux et se couvrent presque.
Sans que ce soit la volonté de la femme, tu veux dire ? Ça peut arriver ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il y a une recherche de perte de contrôle parfois. Mais il y a des gens qui imagineraient, par exemple, pendant longtemps, sur Wikipédia, la définition de gangbang, c'était un viol. Dans la définition de gangbang, il disait que c'était pas consensuel, de base. Le principe même du gangbang. Et c'est pas la réalité, c'est un imaginaire collectif qui est ainsi, où une nana se fait gangbanger. C'est toujours quelque chose où ce sont les hommes qui prennent la main. Alors, évidemment, ils peuvent prendre la main dans les limites qu'on leur a données quand on leur demande, ça c'est une chose. Mais en vrai, moi, le fait que les hommes, certes, moi je les connais tous, mais eux, ils se connaissent pas nécessairement bien entre eux. Ils se fréquentent que dans le cadre des événements que j'organise. Je dis pas qu'il y en a pas compris les numéros de l'un de l'autre, mais grossièrement, c'est quand même comme ça. Et donc, ils sont un peu tous les gardiens de leurs frères. Et donc, ils ont, a priori, pas d'intérêt à laisser passer un comportement qui rendrait pas la nana heureuse. Parce que leur intérêt même bassement matériel, même si je prenais pas des gens qui étaient, entre guillemets, des gens bien, ce qui est, j'essaie quand même de le faire, hein, de prendre des gens qui ont un bon état d'esprit, mais leur intérêt purement matériel, c'est que la nana prenne son pied, s'amuse, parce que c'est plus excitant à regarder qu'une nana qui fait ça de manière reluctante, continue, ne s'arrête pas parce qu'il y a un problème, en profite vraiment, se lâche vraiment, et donc c'est leur intérêt, voilà, et donc du coup, ils n'ont aucun intérêt à laisser passer un comportement qui serait irrespectueux, même si, encore une fois, je suis tout le temps là, je vérifie tout, je suis tout le temps là, mais ça peut arriver que je vois pas tout, et même comme ça, le fait de travailler avec essentiellement des gens qui sont déshabitués, et de renouveler par petits groupes, c'est vraiment l'esprit le plus, la chose sur laquelle je changerai jamais ça, en tout cas je changerai pas d'avis facilement, de prendre essentiellement des gens que je connais, et de m'étendre par renouvellement par tranche, on va dire. Et c'est ça qui permet d'avoir un certain contrôle sur la qualité de ce que je fais.
Je comprends. L'importance du plaisir de la femme, est-ce que... Comment tu t'y prends pour être sûr qu'il se passe en prépa? Et puis après, est-ce que tu débriefes avec les femmes?
Alors, on peut jamais être sûr à l'avance. C'est pour ça que j'essaie de pas promettre plus que ce que je suis capable de fournir. Je passe beaucoup de temps à discuter. Aucun événement n'est organisé sans un appel, vraiment un appel vocal, qui dure en général au moins une demi-heure. Alors peut-être pas toujours, comme je disais, pas forcément avec les deux, hein, ça peut être le mari qui est le délégué du groupe et qui parle, qui est le porte-parole, mais j'essaie de comprendre longuement. Voilà. Et ensuite... moi je sépare la femme, enfin je sépare la plupart du temps la femme du groupe d'hommes, tant que le groupe n'est pas entièrement constitué, et juste avant de
démarrer, le rendez-vous, tu veux dire.
Voilà, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait j'accueille les gens dans la même salle, mais pas dans la même pièce.
D'accord.
Typiquement. Et donc, et puis pas aux mêmes horaires. Il y en a un qui arrive une demi-heure avant l'autre. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, ça change rien. Et donc avant que ça démarre, je vérifie seul, sans la présence d'un compagnon à côté, que tout était ok, qu'elle est consciente de ce qu'il y a dedans. Alors évidemment, il y a des fois, c'est des surprises. Quand je connais les gens, je les autorise à faire des surprises. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte de...
C'est quoi les surprises?
un maître qui veut surprendre sa soumise en lui disant pas ce qu'il y a le contenu d'un événement. Il dit, bon voilà, il y aura un gangbang, tu vas te faire gangbanger ce jour-là, mais elle ne sait pas s'il y en aura 5 ou s'il y en aura 10, si elle va t'attacher, enfin, il y a plein de... Les modalités peuvent varier, la durée peut varier, ça peut être... voilà, donc c'est très très variable tout ça, mais elle peut, en tout cas, donc la plupart du temps, j'essaye de vérifier quand j'ai un doute, quand je connais pas bien les gens, quand ils sont pas, comme ils sont pas recommandés par quelqu'un d'autre, ce qui est quand même une minorité des cas, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est rare que je connaisse absolument pas la personne. Soit je connais quelqu'un qui les connaît, même un mec qui les a croisés dans un club... c'est pas bien les connaître, mais il peut me dire, bon bah elle avait l'air de s'éclater quand elle avait plein de monde autour, elle fait pas pour faire plaisir à son mari. Donc quelque part voilà, c'est quand même une information, c'est pas, voilà.
Et petite question technique, pour l'hygiène, comment on check ça?
Alors l'hygiène, derrière le mot hygiène, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les maladies, et ça c'est pas l'hygiène, c'est les maladies, c'est autre chose. Mais des fois les gens utilisent un mot pour l'autre, et pour l'hygiène simple, il y a une chose qui fonctionne. Ça dépend en fait du type de soirée, évidemment, tout ce qui est les soirées, le soir on va dire. Déjà tous les lieux que j'utilise ont des douches déjà de base, des salles d'eau, il y a accès aux salles d'eau, il n'y a aucun problème. Maintenant, imaginons qu'on me demande, je sais pas, 15 hommes, ils ne vont pas tous arriver et prendre leur douche parce que ça va durer très longtemps. C'est pas logistiquement ça. Donc les gens prennent leur douche avant. Aucun homme n'a envie de se prendre une tape sur les doigts publiquement par une nana qui lui dit tu sens mauvais. Surtout devant 14 autres bonhommes. Donc c'est pas leur intérêt non plus. Ça peut arriver qu'un homme soit très stressé, soit en sueur, et couru pour arriver. Il passe à la douche, c'est évident. Il y a toujours de quoi se rafraîchir, c'est-à-dire au moins des lingettes bébés, des choses comme ça, du déo,
un spray. Vis-à-vis des femmes, est-ce qu'il y a une demande aussi vis-à-vis de justement pour l'hygiène et les tests?
Alors, mettons de côté les histoires de maladies, pour l'instant les tests c'est encore autre chose, c'est pas l'hygiène, c'est les maladies. Mais par contre évidemment il y a eu des fois où les filles sur 700 événements, où par exemple je sais pas, leurs règles se sont déclenchées au milieu de l'événement.
Ouais, ça peut arriver, ouais.
Voilà, une stimulation un peu trop importante, ça peut déclencher des règles, et voilà, donc bon on fait avec. Pour l'histoire de sodomie, ça peut arriver des fois qu'il y ait des accidents. Normalement c'est plutôt, enfin moi je vais pas aller vérifier avant que ça commence. Donc c'est voilà, il y a des accidents.
Que tout le monde, chacun est responsable de.
Les gens sont responsables. Les gens ont pas envie d'être. Enfin, à vrai dire, oui, si une personne était systématiquement sale, elle serait blacklistée. Enfin, systématiquement sale, c'est pas le bon mot. Il suffirait d'une seule fois pour être vraiment sale, mais on va dire systématiquement négligée, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas forcément de choses en tête comme ça parce que ça m'arrive pas, mais. C'est un non-problème, c'est pas vrai. Ça peut être un problème, surtout quand il fait chaud, que les gens transpirent, les odeurs, ça peut arriver. Bon, il y a du désodorisant, il y a des ensembles. Enfin, après, prenons le cas d'un bukkake, quelque part, c'est plus ou moins obligé que ça sente le sperme à la fin.
Oui, je crois qu'on peut pas y échapper.
Il n'y a rien à y faire, et puis ça serait limite, ça perdrait son charme, peut-être, si ça ne sentait pas, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, à la place de celle qui les demande.
Et juste pour finir là-dessus, puis après on passe à autre chose. Ouais, et sûr. Du coup, les tests, là, tu les demandes avant?
Non, pas de test, parce que c'est logistiquement pas faisable. Et là, on va rentrer dans autre chose. D'abord, il y a une chose, c'est l'anonymat des gens. Les tests, c'est nominatif. Donc, des tests anonymes, ça ne vaut rien. C'est d'une part. Et moi, je ne veux pas, je ne souhaite pas connaître les noms et les prénoms des gens, et je pense que les gens ne veulent pas me les donner non plus. C'est une chose. Deuxièmement, les tests, ça a une fenêtre de faux négatifs. C'est-à-dire que si on a fait quelque chose qui nous a infecté dans une période courte avant un événement, ce n'est pas détecté par les tests. Ça induit un sentiment de fausse sécurité. Les préservatifs, ça fonctionne. Ça fonctionne pour les pénétrations.
C'est à chacun de faire les tests après, finalement. C'est peut-être ça le mieux à faire pour vérifier.
En fait, un rapport sexuel, c'est un rapport sexuel. Qu'on l'ait avec 10 personnes ou 10 fois avec une personne, c'est les mêmes risques. Quand on fait avec un inconnu, la base, c'est de se protéger et puis de faire des tests régulièrement. Mais moi, je conseille des tests complets aux gens tous les 3 mois. Mais je suis pas là pour vérifier. Et puis encore une fois, si je dois donner des conseils vraiment, surtout aux participantes, qui, du fait de la pluralité des partenaires, prennent un peu plus de risques que les participants eux-mêmes, c'est d'être sous PrEP. Maintenant, la PrEP, ça fonctionne, ça existe.
C'est quoi ça, sous PrEP?
Le Truvada, c'est un médicament qui empêche d'attraper le sida.
D'accord, ok, je connais pas.
Voilà, quelque chose qui est très répandu dans le milieu gay, dans le milieu libertin, c'est pas encore répondu, mais en tout cas ça fonctionne, et on prend ça, c'est une pilule par jour, c'est sur prescription bien sûr, mais en France c'est remboursé par la sécurité sociale, c'est quelque chose qui fonctionne.
Après, ça protège pas des autres MST, mais bien comme sûr, tu dis, mais c'est à chacun d'être responsable.
Faire la bise ne protège pas de l'herpès non plus, enfin vous voyez, il n'y a jamais aucun risque, le risque zéro n'existe pas. Même en restant seul, je sais pas, moi je connais une personne qui à 12 ans, attraper un herpès en faisant la bise à son père, et c'est qu'un bouton de fièvre quelque part. Enfin, chacun fait comme il veut, chacun gère soi-même son niveau de risque. On utilise des préservatifs pour les pénétrations et pour les fellations, se font sans préservatif, de manière générale.
Puis maintenant, quelque chose qui est constaté dans ce genre de milieu, c'est que finalement, plus tu es libertin ou plus tu fais ce genre de pratique, bah plus tu vas faire des tests parce que justement tu es conscient aussi de tes pratiques. Là où parfois tu as des personnes qui ont des relations plus sporadiques.
Ouais,
on
ils
va
se
dire.
Disent qu'ils ne sont pas des gens à risque.
C'est ça. Et finalement, du coup, ils ne se font jamais tester. Alors, en plusieurs années.
C'est globalement vrai ce que vous dites. Et puis après, on a bien vu avec la crise du Covid que les gens ont un rapport à la médecine très très différent des uns des autres. Et moi, c'est pas de mon ressort. C'est-à-dire que moi, je leur explique s'ils me posent la question, je les conseille quand ils me demandent. Maintenant, pas plus qu'un propriétaire de club n'est responsable du fait d'aller vérifier que les gens se protègent comme il faut. Moi, évidemment, je suis responsable du fait que les mecs suivent ce qui est demandé par la femme. Ça, c'est ma responsabilité. Maintenant, il y a des choses aussi que je ne fais pas parce que je les trouve pas safe. Des choses, par exemple, récemment, j'ai eu une demande de femme qui voulait être pénétrée avec préservatif, mais qui voulait que les hommes éjaculent sur le bord de sa chatte. Et je dis, attention, les hommes, c'est pas non plus des. Enfin, au moment de la jouissance, c'est pas non plus des snipers, hein, donc ça risque de prendre un risque, fais attention. Enfin, ça risque d'induire un risque. Elle me dit, oui, mais sur le bord, machin, pas à côté, enfin, je dis, c'est un peu trop. Il y a trop de place à l'erreur dans ce que tu racontes. Donc moi, je te le déconseille. Après, entre deux adultes consentants, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis aux hommes ce qu'elle veut. Je m'assure qu'ils respectent son envie. Enfin, en vrai, ce qui s'est passé dans l'événement, c'est qu'aucun n'a joué sur sa chatte. Mmh. Voilà.
Oui.
Préférer la frustrer de ce fantasme-là plutôt qu'avoir à gérer. Hein, il n'a pas joué exactement là où il voulait.
Ça peut être excitant d'être frustré.
Bon. Moi, c'est mon rôle d'être responsable, de ne pas être celui qui fantasme.
Mmh, oui, je comprends. Tu as amené des petits accessoires avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, alors déjà, je n'avais pas quelle quantité de place on avait à notre disposition. Donc, j'ai emmené au moins un masque, au moins pour illustrer. C'est pour, évoquer le fait que. C'est important pour moi l'anonymat, je viens d'en parler tout à l'heure. Ça peut arriver que les conjoints, souvent, parfois même les femmes qui me commandent, mais souvent leurs conjoints aiment avoir des souvenirs, des événements. Alors, je dis pas tout le temps oui, mais ça arrive que je dise oui.
De quoi? C'est quoi le oui à quoi?
Oui au fait de prendre des souvenirs, de prendre des photos, okay. Des vidéos, des choses comme ça. Et donc.
Tu demandes l'avis de tout le monde du coup, donc
alors,
c'est comme ça.
C'est plus compliqué que ça. D'abord, moi, je vérifie auprès, je demande si ça t'intéresse. Souvent, ils veulent. Et de manière générale, il y a toujours possibilité d'en prendre 4-5 photos, un ou deux clips, parce que les hommes qui seraient pas intéressés, enfin qui seraient, on va dire, soucieux de ça, peuvent toujours faire un pas en arrière et ne pas à ce moment-là. Par contre, celui qui veut vraiment prendre des photos du début à la fin, et puis ou même filmer du début à la fin, peu importe, vraiment qui veut, pour qui c'est important pour lui, parce qu'il est très condoliste, c'est important pour lui. Il faut qu'il y ait quand même une confiance réciproque pour être sûr que les prises de vue ne sortent pas, qu'il cadre bien sur sa femme ou sa moitié, on va dire. Et qui cadre pas les hommes, ou qui cadre, on va dire, des parties non reconnaissables des hommes. Et puis, au-delà de ça, même une fois que tout ça s'est réuni, des masques sont toujours à disposition des hommes. Parce qu'on fait pas confiance, mais parce que même des gens célèbres se sont fait hacker leurs photos.
Et la femme, elle est masquée?
C'est son conjoint qui prend les photos, donc en général, ils sont pas masqués. C'est pour
elle.
Il y a que elle qui a un masque.
Oui,
il y a que elle qui n'est pas masquée. Il y a que eux qui prennent les photos.
Je croyais que le masque c'était aussi pour l'anonymat entre les participantes.
Non, c'est pas.
Pas forcément. C'est pas celui-là.
Voilà, c'est vraiment marche. Juste pour la prise de vue, pour les aider à oublier qu'il y a une prise de vue et voilà, et se dire que même si le truc il est volé, le téléphone du mari il est volé, bon ils sont quand même masqués. Bon maintenant les gens ont pas mal de tatouages, ils sont quand même reconnaissables. Enfin bon, grosso modo, en cadrant bien, en gardant ça pour soi et en mettant des masques, ça aide à oublier. Et puis des fois il y a des femmes qui sont excitées par le fait que les hommes soient pas reconnaissables parce que ça leur crée, comment dire, un sentiment de être prise avec une foule et non pas être prise avec des individus individuels.
Est-ce qu'elle valide d'ailleurs en amont le physique des hommes, les visages ou les autres parties?
Je comprends. C'est une question qui est légitime. Moi, ce que je ne sais pas faire, c'est garantir une attraction. Je ne sais pas. Enfin, si on doit avoir le niveau d'attraction envers chacun des hommes qu'on aurait envers un homme avec qui on irait en date Tinder, par exemple, moi, je ne sais pas le faire. Je ne crois pas que quelqu'un puisse le proposer. Maintenant, si quelqu'un y arrive, tant mieux. Hein. Ce que je sais faire, c'est moi fournir des groupes d'hommes qui seront compétents en pluralité, qui auront le bon état d'esprit et qui répondront à, on va dire, une description d'hommes.
Est-ce qu'on voit des photos, du coup?
J'y viens. Une description d'hommes qui ne vont pas déplaire. Je peux pas dire qu'ils vont plaire, mais au moins ils déplairont pas. C'est-à-dire que
on me donne,
non, mais même au niveau du physique, c'est-à-dire qu'on peut me donner, des critères, une tranche d'âge, des origines, j'en sais rien, une corpulence, même des critères aussi de comportement, c'est-à-dire que des hommes plutôt fun, sociables, ou au contraire stricts, dominateurs, enfin des choses comme ça, c'est des choses que je sais faire. Par contre, envoyer individuellement une photo de chacun des mecs, c'est j'ai essayé quelques fois. Ça a été globalement des échecs.
Parce que trop compliqué.
Alors, il y a encore, les hommes savent pas toujours se prendre en photo. Ils sont réticents à envoyer des photos à des inconnus dans ce cadre-là.
Normal aussi.
Ou alors ils envoient des photos, il y a pas de visage et c'est souvent le visage qui est peut-être le plus important. Bon, voilà. Donc du coup, ça a été globalement comme un échec. Hein, je veux dire, les fois où ça s'est fait. Ou alors, c'était juste des filles qui avaient peut-être besoin de se rassurer, que je leur en montre. C'est pour ça, par exemple, que sur mon site, il y a une vidéo d'un plan que je fais une fois avec une actrice X pour donner une idée du genre de physique des hommes. C'est-à-dire que, vous voyez, ils ne sont pas dégueulasses. Ils sont normaux. Voilà, il y en a un qui avait peut-être 5 kilos en trop, l'autre qui était un peu chauve, mais globalement, ils sont normaux. Voilà, ils n'ont pas des micro-pénis, des grosses touffes de poils n'importe où. C'est des gens avec un physique. Voilà, si vous voulez des hommes qui vont faire tous craquer individuellement, je ne sais pas faire. Ou alors, c'est que vous craquez facilement, quoi. Mais voilà, je comprends, hein, c'est légitime de vouloir ça. C'est juste que je ne sais pas le produire. Par contre, si votre fantasme, dans votre fantasme, par exemple, les hommes n'ont pas de tête. Souvent, c'est comme ça, quand même. On imagine une forêt de mains et beaucoup de sexe masculin et pas forcément des visages ou des corps, forcément. Bon, voilà. Si c'est quelque chose, si on a un intérêt, un attrait pour la situation et que les hommes, tant qu'ils sont entre guillemets corrects, c'est pas si grave, ça je sais le produire, je sais le faire. Et puis voilà, si on a des critères on va dire un peu objectifs, encore une fois c'est aussi l'offre et la demande, c'est-à-dire que si je sais pas, je dis n'importe quoi, il faudrait 25 chinois avec des sexes énormes, peut-être que je ne les connais pas.
Et c'est quoi l'autre accessoire que tu as amené?
Et alors l'autre chose que j'ai amené, donc je sais pas à quel point ça rentre dans le cadre.
Attention, ça va faire un peu de bruit sur la table.
Ouais, on va faire attention. C'est des bretelles. Alors c'est des bretelles un peu spéciales, hein, parce que c'est des bretelles qui sont pas du tout à la taille d'une personne humaine. C'est des bretelles pour matelas.
Bretelles,
ouais, il y en a 6 exactement. C'est des bretelles pour matelas, ouais, enfin pour draous en l'occurrence. Comment dire, ça symbolise un peu mon attachement à l'aspect technique de la pluralité.
Donc ça s'attache au pied, c'est ça?
En fait, ça s'attache, non, pas du tout, ça s'attache au draous.
Ah.
Et ça passe sous le matelas. Et ça permet en fait simplement, c'est bête, hein, mais c'est des choses que quand on n'a pas fait 700, on n'a pas forcément en tête, simplement le draous reste sur le matelas pendant qu'on s'amuse dessus. Et moi je trouve que c'est peut-être un tout petit détail, hein, c'est un truc que même les gens qui sont venus dans mes événements ne voient pas, c'est en dessous. Mais moi voilà, c'est des choses que personne ne voit. Mais moi quand il m'arrive de sortir ailleurs et que le drap tient pas dessus, parce que on fait des secousses et voilà,
qu'il
y a du monde et tout ça, voilà, bah, que les lits sont pas faits pour accueillir 6 personnes en même temps, je me dis, ah bah voilà, c'est des gens qui ont pas le souci du détail. Et donc moi, sans dire que j'ai forcément le souci de tous les détails, je suis comme tout le monde, j'oublie des trucs,
j'aime bien,
mais moi voilà, c'était ça, je me suis dit que c'était original, que personne normalement vous aurait amené ça.
Ah bah non, ça c'est, non, j'ai jamais vu, c'est cool.
C'est réglable, il y a plein de... Voilà, normalement ça tient bien. Et puis ça permet aussi, par exemple, pour des nanas qui sont un peu fontaines, par exemple, de mettre une alaise bien imperméable en dessous, que ça fuit, que ça glisse. Bah, c'était une manière de dire que j'ai des solutions parfois même techniques à des problèmes réels qui arrivent. Des problèmes aussi bêtes qu'il est déjà arrivé qu'un préservatif rompe Et dans ce cas-là, j'ai des autotests à chiver sur moi voilà, et j'ai des choses, voilà. Beaucoup des problèmes qu'on peut rencontrer, l'éjaculation dans l'œil, tout ça, j'ai dû collir. C'est des choses...
Ça vient avec l'expérience.
Voilà, c'est ça. C'est un peu le côté plus-value d'en faire professionnellement, c'est qu'on a...
Et justement, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de passer de participant à ensuite commencer à organiser, donc passer par la Citana et puis...
Alors l'histoire, en fait, elle est double. D'abord, il y a un aspect purement pratique. Moi... Quand j'ai commencé, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, comme beaucoup d'étudiants. Et j'étais donc du coup pas du tout intéressé par aller chez des professionnels qui font payer. Puis il y en a un qui un jour n'a pas. Il lui manquait du monde et il m'a racolé, je sais pas si c'est le bon mot, mais enfin en tout cas il m'a invité gratuitement. J'étais sur un site de rencontre, voilà, il m'a invité gratuitement à venir. Et il se trouve que d'habitude les premières fois c'est quand même pas là où on est le plus à l'aise. Et moi je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça s'était fait au dernier moment, j'étais très à l'aise et j'avais...
Tu t'es pas posé de questions.
Voilà, j'avais 24 ans à l'époque et les autres on avait facile 40 quoi. Et du coup j'ai été très performant ce jour-là et très très à l'aise et tout ça, et donc du coup le coordinateur voulait que je revienne. Enfin bon, lui c'était son métier, donc il voulait que je revienne en payant quoi. Et moi je dis je suis étudiant, j'ai pas les moyens, et donc il m'a dit tu donneras ce que tu veux. Donc je donnais 10 euros, enfin quelque chose comme ça quoi. Puis j'avais quand même mauvaise conscience de payer un quart ou un cinquième ou un dixième, je sais pas, de ce que payent les autres. Donc j'ai commencé à donner un coup de main pour le rangement, enfin des choses aussi bêtes que ça. Et puis au fur et à mesure, force de donner des coups de main, je suis devenu un peu assistant. Et puis il y a une autre chose, c'était la première fois où je suis allé aux grosses soirées, une soirée où il y avait peut-être 50 personnes. Et donc on est beaucoup d'hommes, et certes pas mal de femmes, mais bon, beaucoup d'hommes quand même. Et on est un parmi... cette soirée-là. Et on est un parmi 30, ou je sais pas combien on était, enfin un grand nombre. Et on ne sait pas comment briser la glace, démarquer, tout ça. Et donc en fait, donner un coup de main à l'organisation, ça nous donne une contenance. En tout cas moi ça m'en a donné une. J'ai fait le bar parce que j'ai vu qu'il était débordé. J'ai donné un coup de main. Je suis pas sûr que ça respectait le code du travail, mais enfin bon, je me suis porté volontaire et donc je me suis mis à servir. Et puis du coup en étant barman, j'ai parlé avec toutes les filles. Et du coup quand j'ai arrêté de parler aux aidés de barman, c'était beaucoup plus simple. Les filles savaient que j'étais le barman, j'étais pas un mec parmi 25.
Donc oui, donc il y avait une relation de confiance déjà qui s'est installée.
Oui, ou pas forcément de confiance, mais au moins on avait rigolé, voilà, on était...
Et comment t'as su que t'aimais ça avant de... Parce que là, quand t'es passé dans l'organisation, t'étais déjà curieux.
Ouais, j'avais déjà des expériences en trio, des choses comme ça, libertine.
Qu'est-ce qui t'a amené à...
Très jeune.
C'est le gangbang vraiment qui me...
Non, mais en fait, très jeune, je pensais que les femmes n'aimaient pas vraiment le sexe, comme beaucoup d'hommes très jeunes, qui ils pensent que c'est peut-être pour faire plaisir, leur copine, elle se laisse faire pendant le sexe, ou un truc comme ça.
Qu'est-ce qui faisait que tu pensais ça, tu crois ?
Je pense une première copine qui n'était pas très portée sur la chose, enfin, quelque chose comme ça. Et puis, je n'avais pas un grand succès auprès des femmes, et donc, je n'avais pas énormément d'occasions de me détromper. Et puis, j'ai un copain qui m'a dit, viens, on va voir un couple au milieu de la nuit, donc il m'a, je sais pas, c'était fin de 3h, minuit, comme ça, on va voir un couple. Et je suis allé, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et je suis allé chez ce couple, et effectivement, on a fait une première chose à 4. Et j'ai dit, ah ouais, en fait, du coup, les femmes aiment vraiment le sexe, quoi. C'est moi, j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 22, quelque chose comme ça. Et donc, j'étais au bas de la nana est venue en soutif et culotte sous son imper, nous chercher au bas de sa résidence, et on est monté dans l'ascenseur, elle a montré et tout. Moi, j'ai cru que c'était un traquenard, que je repartirais sans mes deux reins, enfin, quelque chose comme ça, quoi, que j'allais tomber chez un trafiquant d'organes, ou quelque chose comme ça, enfin, voilà. Bon, et donc, du coup, en fait, non, je suis parti avec le nombre réglementaire d'organes à la fin, et une recommandation pour un site de rencontre échangiste à l'époque, et donc, je me suis inscrit en 2007 sur ce site-là, et ça fait donc depuis 15 ans que j'y suis.
Et 5 ans plus tard, tu as commencé à organiser du coup.
Voilà, donc du coup en 2009, j'ai dû commencer à participer à des pluralités. Donc c'était pas organisé comme ça, à l'occasion de ce que je vous ai dit. Puis après, arrivé en 2012, voilà, quand j'avais fini mes études, ça me plaisait pas trop ce que j'avais étudié.
Et donc ton rapport aux femmes, par rapport à ce que tu as vécu en soirée la nuit, ça a beaucoup changé après dans ce qui se passait de jour ?
Alors le rapport aux femmes que j'avais avant d'expérimenter tout ça, c'était un rapport qui était complètement malsain. Aujourd'hui, on dirait incel.
Ça veut dire quoi ?
Involontarie célibataire. si, quelque chose comme ça. C'est un mouvement de, d'hommes qui sont... Voilà, c'est des hommes qui sont aigris auprès des femmes. C'est-à-dire qu'ils ont... Comme ils sont pas...
Ouais, bon, t'as 22 ans quand même, remettons le contexte.
Ouais, mais c'est beaucoup...
Tu te sentais quand même comme ça, même à cet âge-là.
Ah ben, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des tueries de masse à cause de ça, aujourd'hui, hein, aux États-Unis. Hein. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque. Mais bon, il n'y avait pas de mots, il n'y avait, avait pas une culture autour. Aujourd'hui, c'est répandu. Mais effectivement, j'avais un rapport assez malsain aux femmes. Et puis, découvrir que ça peut être quelque chose... Enfin, où on peut ne pas avoir à se mentir, ne pas avoir à manipuler l'autre... Être dans
Donc tu te sentais obligé de manipuler avant?
Non, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à manipuler les gens. Je suis pas quelqu'un de calculateur. Et donc, je me sentais aigri de voir la réussite de ceux qui arrivaient à mentir. Pour moi, là, c'est, enfin, quelque part, on dit forcément que la séduction est toujours un mensonge, un peu. Après, c'est comme le marketing. Hein, à quel point c'est du mensonge,
Se déployait dans ton comportement avec les femmes?
Mais il n'y avait pas de comportement avec les femmes. C'est-à-dire
que
moi, j'étais.
Enfin,
ça m'était arrivé d'avoir des copines avec qui j'étais avant tout un bon copain. Et puis, ça m'est arrivé qu'une fois ou voilà, deux. Mais c'était pas. Enfin. Moi, l'idée de la séduction, c'était quelque chose, une idée de mensonge. Et pour moi, le mensonge, c'est très grave. Il y a des mensonges anodins.
Tu fuyais la séduction?
Mais je fuyais la manipulation, en tout cas, oui, que j'associais à la séduction. Donc, du coup, les rares fois où j'avais réussi à avoir des relations avec des femmes, c'était parce qu'avant tout, j'étais leur ami, et puis bon, ça avait un peu évolué. Mais bon, cette histoire de séduction qui était vue comme moi, comme leur mentir dans l'absolu, c'était quelque chose qui me dégoûtait.
Comment est-ce que ton comportement a changé suite, par exemple, à ce plan 4, où j'imagine d'autres expériences qui sont venues par la suite? Qu'est-ce que ça t'a ouvert dans ton esprit, dans ton comportement? Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi?
Moi, je me suis dit que il existait des femmes qui n'étaient pas comme celles que j'imaginais, enfin comme celles qui correspondaient pas à ce que j'imaginais de la femme. Et donc du coup, au début, c'était surtout sur l'âge. En fait, je me disais à partir d'un certain âge, les femmes deviennent peut-être plus honnête vis-à-vis de leurs envies de coucher. Donc, je me disais,
les hommes aussi, cela dit.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait. Et donc, du coup, à tel point, ce que vous dites est vrai, c'est que moi, généralement, je suis très, 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 très précautionneux sur le fait de prendre des hommes de moins de 25 ans dans mes événements. C'est rare que j'en prenne. Il faut que tu me fasses une bonne impression. Parce que souvent, soit ils ne viennent pas. Ils annulent.
Et puis ils se font une idée de la sexualité. Ils font liée semblant sur le porno, d'être. Qui n'est pas forcément ce qui se passe.
Oui, en vrai, ils sont surtout beaucoup d'aboiements et peu de mordants. Et donc, manque de confiance. Enfin, peu importe. Donc, du coup, oui, effectivement, au début, je m'imaginais que c'était. Je chercherais des femmes plus âgées. Je suis même sorti, je crois, avec une nana qui avait une cinquantaine d'années quand j'en avais 24, un truc comme ça. Maintenant que j'ai un peu plus de recul, que j'ai vieilli, tout ça est faux, bien sûr. C'était aussi. J'étais intransigeant sur le fait de jamais mentir, machin.
C'était
d'adolescence.
Dur avec toi-même.
Oui, non, mais c'était de l'adolescence. C'est-à-dire que c'était un truc d'adolescent attardé.
Et maintenant, comment tu vis du coup ta relation, que ce soit avec tes clientes, dans l'intimité, avec tes amis
C'est vrai que ma sociabilité, c'est essentiellement des gens que j'ai rencontrés à mon travail. J'ai peut-être deux amis non libertines. Voilà, donc c'est entre guillemets, c'est ghetto un peu ce que je fais, c'est-à-dire que je suis,
c'est une niche.
Oui, mais enfin, c'est un ghetto dans le sens où j'ai beaucoup de sociabilisation avec mon travail, et donc du coup, j'ai peut-être pas le temps, peut-être pas l'énergie, ou peut-être pas la curiosité d'aller sociabiliser par d'autres moyens, et donc du coup, je me retrouve un peu à être... Mais bon, j'essaie quand même d'avoir des gens qui sont... Par exemple, qui sont plus des clients, qui ont long été, mais avec qui je suis ami, et ces amitiés-là, elles valent plus que les amitiés des gens avec qui j'ai un rapport commercial par ailleurs.
J'ai deux dernières questions. L'avant-dernière étant, est-ce que tu as l'impression, en tant qu'être humain, d'avoir appris sur la communication le fait justement de demander à tes clientes et tes clients de communiquer avec toi? Est-ce que du coup, par leur biais, à fur et à mesure d'échanger avec eux, toi, tu as l'impression aussi d'avoir grandi et d'avoir évolué sur ta propre communication, dans ton intimité?
Je pense pas. Je pense qu'au contraire, en fait, ce qui fait de moi un organisateur qui plaît à certains et finalement déplaît à d'autres, c'est que j'ai justement pas changé ça. C'est-à-dire que je suis resté quelqu'un d'assez, c'est-à-dire pas intransigeant, c'est peut-être pas le bon mot, mais on va dire, assez carrée, quoi. C'est-à-dire que les choses sont dites de manière parfois sans embâge. Et donc, effectivement, je joue peut-être pas forcément ce jeu de la communication par allusion. Peut-être que les choses sont peut-être un peu trop...
Non, je dis pas... Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je voulais dire, c'est que, en fait, moi, comme je vois ton métier, c'est que tu es quelqu'un qui communique avec plein de gens différents et que, du coup, tu rencontres plein de personnalités différentes.
Ouais.
Est-ce que le fait, du coup, de te heurter à autant de personnalités, bah, parfois, tu vois des bons exemples de comment la personne formule ses phrases, ce qu'elle va oser dire, que toi, tu dis « Ah, peut-être que moi, à sa place, j'aurais pas osé dire ça comme ça. »
Ah, bah, y a des gens qui m'ont impressionné par leur précocité, par leur maturité tôt, mais ça c'est pas spécialement lié à ce que je fais. C'est des gens qui sont plus précoces que d'autres. Moi, j'ai des femmes, une femme seule, par exemple, qui est venue seule à 19 ans à Paris, alors qu'elle n'est pas parisienne. Et voilà, donc ça, c'est impressionnant. Elle m'a appelé le jeudi, elle voulait quelque chose, j'en sais rien, le surlendemain, quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas. Elle voulait absolument le truc. Et voilà, une fois qu'elle avait pris sa décision, c'était gravé dans l'ordre. Effectivement, c'est impressionnant.
Elle n'a pas dévié par la suite.
Bien sûr que si, elle a eu un moment de trac, c'est normal, c'est logique, mais c'est un moment de trac qui, comme tout, a été surmonté. J'ai fait preuve d'un petit peu de diplomatie.
Elle n'a pas regretté son événement quand
même. Non, bien sûr que non. C'est juste que 2 heures avant, elle avait mal à la gorge, elle voulait peut-être annuler. Mais bon, ça c'est... qui ne l'aurait pas eu à sa place, quoi. Et donc du coup, je lui ai dit, tu viens, au moins tu auras fait connaissance. C'est pas grave, on fera rien. Puis tu verras bien. Puis évidemment, voilà. J'ai le temps de quitter la pièce pour aller chercher les mecs, pour lui présenter. Elle était toute nue, en train de se goder elle-même. Donc... Bon, évidemment, voilà, c'était normal qu'elle ait un peu de trac avant.
Avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter ?
Il y a un truc dont j'avais commencé à parler, puis ça c'est, la discussion a évolué autrement. Dans ma manière d'organiser, il y a une autre chose qui est importante pour moi, au-delà de prendre des habitués et pas prendre beaucoup de nouveaux, c'est d'être réactif. C'est-à-dire que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne fais pas autant d'événements que ce que je pourrais. C'est que souvent, ça me varie, et donc je ne veux pas prévoir quelque chose un mois à l'avance et commencer un casting une semaine à l'avance, parce qu'on aurait des hommes qui viendraient par correction, des femmes qui le feraient parce qu'elles se sont engagées. Et donc moi, c'est vrai que j'accorde une grande importance à la spontanéité de la chose, et j'ai souvent tendance à mettre un frein à des fantasmes trop circonstanciés, où il y a vraiment un scénario H+5 minutes, voilà. Il y a des mises en scène de départ qui sont tout à fait intéressantes. Il y a des idées, des grandes idées.
T'en as une vite fait à nous partager comme ça, rapidement.
Il y a quelque chose, par exemple, comme idée où on n'a pas besoin de tout connaître. Une nana qui voulait être mise dans une camionnette et faire le tour du bois de Boulogne. Et qu'à intervalles réguliers, des groupes d'hommes montent dans la camionnette et s'amusent avec elle. Bon, alors moi, mon côté technique, c'était de mettre en place un GPS pour retrouver la camionnette facilement.
Mais c'est hyper stimulant pour toi.
Mais du coup, elle n'a pas eu besoin. Enfin, on n'est pas rentré dans le détail de combien d'hommes elle voulait, à quel moment, machin. Moi, c'est moi qui, avec mon expérience, ai amené, on va dire, le côté. La mise en pratique. Et c'est vrai que, parfois, certains conjoints. Ils aiment bien tout millimétrer, ne rien lâcher. Je peux comprendre, c'est très flippant, mais il faut parfois ne pas être dans la surréflexion.
Et parfois, le manque de lâcher prise est plus du côté masculin que du côté
féminin. Oui, voilà. C'est-à-dire que, comme c'est quand même l'essentiel de mes interlocuteurs primaires, les conjoints, et qui sont souvent très protecteurs de leurs femmes, ce qui est plutôt une bonne chose, ils veulent tout contrôler. Et moi, je leur dis, c'est pas comme ça que vous tirerez le meilleur parti des hommes présents. Voilà.
Ça marche. Toute petite dernière question qui n'a rien à voir, c'est la phrase que je demande un peu à tout le monde pour conclure. Si je devais proposer à quelqu'un de participer à cette émission, soit quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un de connu, personnalité publique ou un ou une amie, est-ce que tu penses à quelqu'un ?
Je pense que une interview, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais une interview qui pourrait être intéressante, ça serait des dominatrices professionnelles.
J'aimerais beaucoup. Ouais.
Il y a souvent des. C'est quelque chose, c'est un pan de quelque chose que je connais peu, parce que ça a peu en rapport avec ce que je fais. Mais elles voient quelque chose de très différent de ce que je vois. Enfin, j'imagine, à vrai dire. Je pas. Et
c'est quelque chose. Tu penses à quoi quand tu
dis ça? Ben, elles ont un rapport complètement différent avec les hommes.
Ouais, oui,
non, mais même le fait d'être client, elles-mêmes des sex workers elles-mêmes, alors que moi je le suis pas vraiment. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, une interview d'une dominatrice professionnelle qui serait pas dans l'auto-promotion, qui ne jouerait pas un personnage, ça pourrait être un beau challenge pour vous de trouver quelqu'un qui réussir à lui faire tomber ses armes de autopromo et je suis une déesse et il faut m'adorer et connaître un peu les coulisses de ça. C'est quelque chose, ce que j'ai connu moi des coulisses, ce que j'ai entendu des coulisses et ce que j'ai vu, ça peut être quelque chose d'intéressant.
T'aurais une question qui te vient en tête là?
Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup dans leur relation, c'est à quel point elles y croient à leur personnage et à quel point elles sont capables de se déconnecter du personnage public qu'elles jouent pendant la domination. C'est quelque chose que j'ai déjà, que je connais bien avec des hommes, et ça, les hommes qui font ça, ils sont parfois intoxiqués par leur propre propagande et par une masculinité toxique, et c'est quelque chose dont il faut faire attention. Mais chez les femmes, c'est quelque chose que je connais peu. J'ai pas eu beaucoup de gens qui ont été. Je connais peu de dominatrices. Et donc, ça serait quelque chose d'intéressant d'entendre le point de vue d'une dominatrice sur la position de pouvoir qu'elles ont et à quel point c'est une position qui est réelle et à quel point c'est une position qui est situationnelle. Voilà. C'est,
Très bien. Merci beaucoup. Merci pour tout ce partage, nous avoir ouvert les portes de ton univers. Et c'était super chouette, super intéressant. Je passais un très bon moment. J'ai adoré que tu m'avouvoyais tout le long et que moi je te tutoie. Merci.
J'ai pas fait attention. Je sais que j'avais pris une décision là-dessus. Puis, tout le reste, c'est sorti comme c'était. Hein.
Ouais. Non, mais j'adore. Okay. On pourra continuer après dans cet élan. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur les applications partout où vous pouvez, Apple Podcasts, Spotify, mon site internet. C'est hyper important pour moi d'avoir votre feedback, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, pour que je sache un peu sur quoi travailler pour la suite. Devenir membre du Club Coco, c'est accéder aux épisodes érotiques, c'est rejoindre la communauté Discord Club Coco. Donc c'est la communauté de Colette se confesse qui se rejoint pour échanger en toute bienveillance, honnêteté et rigolade. Je vous assure que depuis que c'est créé, ça se marre bien, j'en suis la première témoin. Je vous dis à très vite et merci pour tout. À bientôt.
Merci cher auditeur, chère auditrice. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager au maximum autour de toi, de laisser un commentaire et 5 étoiles dans l'application dans laquelle tu es en train de m'écouter. Tu peux me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux me soutenir avec un tip. Devenir donateur, c'est super important. Pourquoi ? Parce que c'est me soutenir dans mes créations, pour que je continue à créer de la qualité pour tes oreilles affûtées. Tu auras accès à des épisodes exclusifs, à toutes les sorties en avant-première et au Discord, le Club de Coco, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, de discussions. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site internet patreon.com/Colette se confesse. Colette s'écrit avec un L et deux T. À bientôt. Colette.